Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Yves Daou et Michel Gérard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
La bulle immobilière est toujours présente au Québec. Les Québécois raffolent des maisons. Actuellement, on pense déjà que les prix des maisons devraient augmenter d'à peu près 20 % Les prix de construction neuve, déjà les maisons sont en hausse de 15 % C'est la folie. Les acheteurs cherchent des maisons. Les vendeurs veulent vendre leurs maisons. Donc, pour discuter de ce qui se passe dans le marché de l'immobilier, je reçois Ghislain Larochelle, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut, Ghislain.
Bonjour, Yves.
Bon, on sait, là, les raisons de ces explosions de prix sont connues. Là. Les conditions de financement sont toujours aussi attractives. Puis, évidemment, bien, l'immobilier subit pas vraiment l'inflation. Donc, tu vois qu'il y a des hausses assez dramatiques, comme je le disais. Évidemment, il y a un changement de mode de vie pour beaucoup de gens. Le télétravail, ils cherchent des plus grandes maisons, etc. Mais il y a une nouvelle ce matin qui est sortie. Le bureau du surintendant des institutions financières propose maintenant de fixer à 5,25 le taux d'intérêt qui va servir à évaluer la capacité de remboursement des emprunteurs, alors qu'il est actuellement de 4,79. C'est une bonne idée?
Bien, le but là-dedans, c'est tout simplement d'aller limiter la quantité de gens qui vont être incapables de se qualifier pour une hypothèque. Parce que si tu étais à 4,79, tu ajoutes un taux d'intérêt à 5,25 qu'il faut que tu te qualifies. Bien, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a moins de gens qui vont se qualifier. Il y a peut-être, il va nécessairement avoir moins de gens qui vont chercher des maisons. Fait que c'est un effet qui va atténuer peut-être un peu l'effet de surenchère qu'on voit présentement pour les gens qui sont juste sur le bord d'être capables de se qualifier sur une hypothèque.
Parce qu'on s'entend, tu sais, bon, il y a le prêt hypothécaire, mais tu sais, dans la première année, là, tu as les droits de mutation. T'as toutes sortes de coûts qui vont venir. Puis là, on le sait là, que les gens font des surenchères des fois de 100 000 $ sur des maisons qui normalement vont nécessiter de la rénovation. Puis là, c'est évidemment la même chose. C'est que là, on va décider d'utiliser la valeur de ta maison, tu comprends-tu, pour emprunter, pour pouvoir faire les travaux, tout ça. Fait qu'évidemment, à un moment, la première année, les premières années, là, ça risque d'être un peu corsé pour bien du monde. C'est sûr que là, les gens, là, ils vont devoir avoir la capacité vraiment de payer si jamais les taux d'intérêt augmentent.
Ils s'attendent. Bon, on sait que les taux ont monté un peu, mais ils s'attendent que ça va continuer à monter, mais jusqu'à quel montant, on ne sait pas. Puis, c'est tout le temps pour prévenir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est prévenir en cas des fois qu'il y ait des pertes d'emploi, en cas des fois qu'il y ait des choses qui arrivent avec la pandémie, ben, on prévient. Fait que c'est très, très sage qu'est-ce qu'ils font présentement avec le bureau de surintendant des institutions financières.
Ghislain, tu as écrit beaucoup là-dessus, puis c'était un sujet de discussion dans le marché immobilier. Là. Il y a beaucoup de vendeurs de maisons qui disent « Moi, je vends ma maison sans garantie légale. » Puis de l'autre côté, les acheteurs, eux autres, acceptent évidemment de l'acheter sans garantie légale parce qu'ils voient qu'il y a déjà 10-15 personnes en arrière qui sont prêtes à faire la même chose. C'est une bonne idée d'abord pour un propriétaire d'une maison de vendre sans garantie légale, puis d'un acheteur de l'acheter sans garantie légale?
Bien, normalement, on retrouve trois cas très, très populaires. C'est les ventes de succession qui sont vendus sans garantie légale, les vendeurs âgés qui sont rendus à 70, 80, 90 ans, ils vendent, ils ne veulent pas avoir de problème, et bien sûr, les reprises bancaires. Fait que ces trois-là, c'est trois qui sont très, très communs. Et là, on voit de plus en plus, depuis quelques années, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, n'importe qui va essayer de vendre sans garantie légale, je ne veux pas avoir de casse-tête. Parce que le défi qu'il y a, c'est que l'acheteur qui vend sans garantie légale, s'il y a un vice caché, là, il ne peut pas revenir contre le vendeur. Donc, ça protège le vendeur, mais ça ne protège pas l'acheteur contre s'il y a un vice.
Mais moi, je te pose une question, Ghislain. Bon, quand tu vends ta maison, le vendeur fait ce qu'on appelle une promesse de une déclaration par rapport à sa maison. Puis là, il décrit à peu près tout ce qu'il y a de défauts dans la maison, etc. Oui. Même s'il dit, moi, je vends sans garantie légale, cette déclaration-là du vendeur, là, elle a plus vraiment d'intérêt.
Ben, il vend sans garantie légale. Fait que, puis les déclarations de vendeur, c'est juste quand il y a des courtiers immobiliers d'impliqués. Quand c'est du vendre de gré à gré au privé, tu n'es pas obligé d'en remplir.
Mais je reviens encore, la grande majorité vend avec des courtiers. On s'entend pour dire que cette déclaration...
Une grosse majorité vend avec des courtiers. C'est que, puis il y a un risque pour l'acheteur. Parce que j'ai un ami qui a acheté une maison, puis il n'avait pas fait vérifier, il a fait une surenchère. Puis là, il y a des problèmes de fondation avec. Il ne peut pas revenir contre le vendeur.
Même si dans la déclaration du vendeur, c'était indiqué qu'il y avait ce problème-là?
Ben non. Ça, c'est si c'est indiqué, Yves, c'est que c'est plus un vice caché. C'est un vice
que
le vendeur a déclaré. Fait que là, on n'est pas dans un vice caché. On n'est pas dans la garantie légale.
OK, parfait. Là, évidemment, la question se pose évidemment par rapport au prix des maisons. Là, si tu es un vendeur, si ta maison, tu veux la mettre en vente, est-ce que c'est le meilleur moment de le vendre parce que les prix sont tellement élevés, puis c'est mieux de le faire maintenant parce que les prix vont descendre? Puis c'est la même chose pour les acheteurs. Est-ce que les acheteurs devraient attendre là un an et demi, deux ans pour que le marché se stabilise plutôt que d'aller payer 100 000, 150 000 $ de plus pour une maison?
Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas personne qui a une boule de cristal pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années. Mais si on regarde les 20-30 dernières années, le prix des maisons, de 86 à 2016, le prix des maisons a augmenté de 300 %. Ça veut dire trois fois la valeur. Fait que si tu achètes sur le long terme, tu vas être gagnant, il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on devrait vendre avant que les maisons baissent? J'ai pas de boule de cristal, mais je m'attends pas que ça va descendre les maisons. Il manque d'inventaire. Présentement, il y a beaucoup un gros manque d'inventaire. Puis c'est dû principalement à ce que les retraités ont arrêté de mettre leur maison en vente pour pas aller dans les résidences de personnes âgées. Il y a eu des reprises bancaires qui n'ont pas eu lieu. Il y a eu des ventes pour taxes que les gens n'ont pas payé leurs taxes. Puis les villes n'ont pas repris les maisons, n'ont pas repris ça. Et le quatrième facteur, c'est le taux d'intérêt qui est très, très bas. Et là, les gens peuvent acheter des maisons, puis ils ont épargné. Là, dans le temps du COVID, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus rien faire. Mais là, les gens ont encore plus d'argent pour y aller. Est-ce que c'est le temps de vendre? Allez regarder de votre côté, est-ce que vous avez besoin de vendre? S'il n'y aurait pas eu la surenchère présentement, est-ce que vous aviez vendu? Si oui, vendez. Mais pensez que si vous en allez en appartement, là, il y a quand même des frais dans les appartements, des frais pour vivre. Puis là, quand vous allez vouloir racheter dans un an ou deux, là, les prix vont encore continuer à monter, selon moi. Fait que il n'y a pas de réponse claire, mais il faut bien l'analyser. On ne fait pas ça juste pour l'argent.
On est avec Ghislain Larochelle, chroniqueur immobilier au Journal de Montréal, Journal de Québec. Ghislain, une question qui revient souvent, là, faut-il rénover avant de vendre? Puis évidemment, quand tu achètes une maison, si tu le mets de l'autre côté de l'acheteur, est-ce que l'acheteur souhaite plutôt dire, écoute, moi, je suis prêt à acheter cette maison-là, je vois qu'il y a beaucoup de rénovations, j'essaie de faire baisser le prix, puis moi, je vais m'en occuper des rénovations. Donc, l'enjeu, là, c'est... Faut-il rénover avant de vendre ou faut-il acheter une maison en sachant qu'on va demander une baisse de prix pour pouvoir la rénover plus tard?
Présentement, avec le marché vendeur qu'on a présentement, les cas que j'ai eu à travailler, ça valait pas la peine de rénover. Parce que le marché se vend souvent en surenchère et qu'est-ce qui arrive, c'est que si par exemple la cuisine est à refaire, la salle de bain est à refaire, comme tu le disais, souvent les acheteurs veulent la refaire à leur goût et ils vont aller chercher une hypothèque aussi, un prêt, je veux dire, avec la banque pour être capable de le refaire à leur goût. Fait que vérifiez, allez voir avec un courtier immobilier, allez voir avec un évaluateur agréé quel prix vous pensez être capable d'avoir la maison non rénovée. Puis si vous mettez, mettons, 50 000 dans la maison, allez-vous être capable d'aller chercher un 60, 70, 100 000 de plus ou vous allez juste revoir qu'est-ce que vous avez mis dedans? Et c'est le calcul qu'il faut faire, mais présentement, la moyenne au bâton, c'est tu rénoves pas, tu vends direct.
En concluant, Ghislain, je lisais récemment que la bulle immobilière là, est pas seulement présente au Québec. Là. Écoute, l'OCDE a annoncé que les hausses moyennes actuellement à travers le monde, là, c'est un record vieux de 20 ans. Dans tous les pays, États-Unis, Australie, Chine, Danemark, et les mêmes raisons des explosions, c'est la même affaire, les conditions faciles de justement d'emprunt, le retour au télétravail, l'immobilier qui subit pas l'inflation et les gens qui fuient les centres-villes bondés pour des espaces plus grands. Donc, c'est un sujet qu'on va continuer à analyser avec toi au cours des prochaines semaines dans tes chroniques dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Donc, c'était Ghislain Larochelle, chroniqueur immobilier. Merci, Ghislain.